Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Nous sommes le mardi 7 mai déjà. Je suis Marion et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour débriefer et discuter ensemble de l'actualité tech. Tout de suite, c'est le mug. Bonjour à tous, j'espère que vous avez la forme ce matin, je suis ravie de vous retrouver. En plus, il y avait un petit bout de ciel bleu en allant au studio ce matin, donc ça fait trop plaisir. J'espère que le soleil pointe le bout de son nez aussi chez vous et que vous êtes réveillés tranquillement du bon pied et que là, vous êtes tranquillement installés pour regarder ou écouter, parce que pas nécessairement regarder, mais regarder ou écouter le mug ce matin. On est en bonne compagnie avec la chatroom. Je vais voir un petit peu qui nous a rejoint ce matin. Salut Grub, salut David Le Panda Fou du 57, salut Lambda 42, salut Skellerner, salut 95, salut Manon, salut Grub de nouveau. Salut Olek, salut MMG7F, salut PsyYohan 38. Salut Pauline, salut Mackay84, un grand merci pour ton abonnement. Salut Eliav, un grand merci également pour ton abonnement. Également un grand merci à Planescape Sigil. Je ne sais pas ce qui se passe ce matin, je n'ai même pas commencé l'émission, vous êtes chaud là. Chaud, très bien. Salut Ifanboy31, salut Caradoc, salut Zoldril, salut Edgil71, salut Poppy, salut Le Pralo, salut Anne-Vou, salut Pépipin. Oh, salut Pépipin. Salut, bienvenue à toi. T'as pas encore commencé ton live Salut Docteur Rictus, salut Polaire75, salut Astaroth3484, salut Bartou56, salut Niche Automata, salut Olivier SG, salut Matt In et Samuel Durand. Voilà, je crois que j'ai dit à peu près bonjour à tous ceux, en tout cas, qui se sont exprimés dans le chat. En tout cas, je suis ravie de vous retrouver. Dernier mug en ce qui me concerne avant notre départ au Japon. Mais petit rappel quand même, j'en profite pour le dire parce que c'est important, Jérôme sera bien là jeudi et vendredi. On ne fait pas les jours fériés. Parce que du coup, comme on prend pas mal de vacances après, voilà, donc on va en profiter pour avancer un maximum là, mercredi et jeudi. Donc du coup, Jérôme sera bien là pour jeudi pour le mug, ainsi que vendredi, même si jeudi est férié, vous savez quoi. Ben, si vous ne levez pas, tant pis, Jérôme dansera tout seul devant son mug en live, sans personne dans la chatroom. Mais normalement, de ce que j'ai compris, c'est qu'il ferait bien l'émission. Voilà, Jérôme est à fond sur son japonais, là, Konnichiwa Ogenki Desuka. Voilà, on est à fond sur nos leçons Duolingo de japonais. On va froisser les japonais en massacrant leur langue. Mais bon, ça montre qu'on essaye quand même, ça montre qu'on essaye. ça, je connais, c'est le menu 12, ça promet, Olek. Donc voilà, donc dernière semaine de mug avant un petit break jusqu'à fin janvier, puisqu'on reviendra la semaine du 24, si je me rappelle bien, voilà, avec moi le mardi de cette semaine-là. Mais du coup, profitez-en, et on espère qu'on va pas trop vous manquer, mais un petit peu quand même. Domo arigato gozaimasu. Alors, arigato gozaimasu, je connais, mais alors du coup, ça s'écrit pas comme ça. Dans la manière dont je l'ai appris. Et alors, deux mots, je ne sais pas, par contre. Ça, je ne sais pas. ils vont tous se faire seppuku en écoutant le japonais de Jérôme. j'espère pas. En même temps, oui, ça montre quand même qu'on est super motivé et super intéressé par la langue, la culture et tout. Et ça, c'est vrai. Trêve de bavardage de japonais quand même. Merci beaucoup, Dr. Rictus, pour ton soutien. Un grand merci à toi. Voilà, au-delà de juste massacrer la langue, on va quand même parler de quelles sont les actualités tech ce matin. Et il y en a une quand même de taille, et vous le savez, on en a déjà un petit peu parlé mardi dernier, Jérôme en a également parlé, c'est évidemment l'événement Apple aujourd'hui, prévu je crois à 16h heure française, hein, si je ne me trompe pas. N'hésitez pas à me corriger dans la chatroom, mais il me semble que c'est ce que j'avais vu dans un article. Alors attendez, est-ce que je retrouve ça? Non, j'ai pas l'heure dans l'article que j'ai ici, mais il me semble que j'avais vu ça tout à l'heure. Peut-être en introduction de l'article. Non. Oui, c'est bien ça, c'est 16h. Vous êtes super dans la chatroom. Merci beaucoup d'avoir confirmé. Donc, pour ceux qui sont intéressés, rendez-vous sur le site Apple, tout simplement, à 16h pour suivre en direct les annonces d'Apple. Il n'y aura pas de live de la chaîne aujourd'hui. Je préfère quand même prévenir, parce que normalement, c'est vrai qu'on essaye d'en faire. Mais là, on a beaucoup à faire avant notre départ. Donc, on va pas forcément faire de live. Mais par contre, il y aura quand même une vidéo sur le sujet qui va sortir rapidement. Donc, vous inquiétez pas, ça va quand même être traité sur la chaîne. On va pas vous laisser tomber quand même. Ne vous inquiétez pas, on reviendra avec une vidéo très rapidement sur le sujet, mais pas de live. Donc, rendez-vous tout simplement sur le site internet d'Apple pour suivre les annonces. Donc, on parlera évidemment de ça. De quoi va-t-on parler? Quelles sont les rumeurs, les toutes dernières rumeurs finalement sur cet événement, et qu'est-ce qu'il va annoncer aujourd'hui de la part d'Apple? On parlera aussi d'une petite nouveauté du côté de Free. Xavier Niel avait fait toute une grosse annonce comme quoi il n'augmenterait pas les prix de son forfait à 2€. Et ben finalement, en tout cas, il y a certaines options qui augmentent. Voilà, le freeze des prix jusqu'en 2027 n'a pas tenu. On continuera avec un autre sujet qui est très intéressant de mon point de vue. Vous savez que depuis quelques mois, je dirais maintenant, la plupart des plateformes de streaming ont un peu retourné leur veste en se disant « Ah non, mais les abonnements payants, ça suffit pas. On va aussi faire des abonnements gratuits ou avec publicité, tout simplement. » Donc gratuit mais monétisé par la publicité, ou pas gratuit, c'est-à-dire payant mais avec de la publicité dedans. Et donc du coup, c'est intéressant de se poser la question combien la publicité rapporte concrètement à ces plateformes de streaming. On a quelques informations qui sont disponibles et du coup, ça vaut la peine d'en discuter, hein. C'est suite à quelques informations qui ont été collectées par Business Insider qui donnent un petit peu plus de visibilité justement sur le coût de la publicité et du coup le revenu généré par ces plateformes. Et puis on parlera après encore de plateformes de streaming, mais cette fois-ci côté musique avec Spotify. Spotify qui eux aussi changent ou mettent à jour un petit peu leur offre d'abonnement, et ici ils essayent de trouver des astuces, peut-être pas des astuces, mais en tout cas une meilleure définition de leur offre gratuite monétisé avec la pub et de leur offre abonnement payant avec tout plein d'avantages. Et notamment, il y a certaines fonctionnalités qui étaient disponibles sur l'abonnement gratuit monétisé avec la pub qui se font la malle pour aller être disponibles uniquement sur les abonnements payants. On reviendra sur quel type de fonctionnalités vont disparaître finalement de la formule gratuite. Et puis ensuite, on parlera piratage ou accès illégal à du contenu, avec dans un premier temps une analyse de l'ARCOM qui est intéressante sur justement le progrès ou le recul du piratage en France. C'est un bilan annuel de 2023 qui a été publié par l'ARCOM. Et donc ça, c'est intéressant de voir où est-ce qu'on en est aujourd'hui du piratage en France. Et puis on continuera avec la protection du contenu ou l'accès illégal, avec cette fois-ci la croisade de Nintendo contre l'émulateur Yuzu, voilà, qui a fait beaucoup, beaucoup parler de lui depuis le début de l'année, hein, le fameux émulateur Switch Yuzu, avec notamment une plainte que Nintendo avait déposée en début d'année, en février, contre les développeurs du fameux émulateur. Mais ils ne se sont pas arrêtés là et ils ont pris d'assaut GitHub carrément pour retirer des... des ripos, enfin, je sais pas comment dire ça en français, des dépôts, en fait, des partages de code sur la plateforme GitHub. Et ça a quand même voilà, supprimé plus de 8500 dépôts sur GitHub, ce qui est quand même pas rien. On reviendra sur pourquoi, comment ils ont fait Nintendo et qu'est-ce que ça veut dire finalement pour le futur des émulateurs. Le futur ou le manque de futur des émulateurs et pourquoi Nintendo part en croisade comme ça. Évidemment, on en discutera avec vous hein, parce que je suis sûre que vous avez un avis dans la chatroom, donc ça serait intéressant d'en discuter. Et puis, on terminera la journée série oblige quand même. Je ne vais pas vous laisser en plan pendant presque un mois sans vous donner un petit peu quelques séries sous la dent. On va parler notamment de la nouvelle série Star Wars qui a été annoncée et notamment dévoilée avec un trailer, une bande-annonce, donc The Acolyte, qui va prochainement faire son arrivée sur Disney+, début juin. Mais pas que, je vous partagerai tout en fin d'émission rapidement trois séries qui, à mon avis, valent la peine d'être regardées pour des raisons complètement différentes. Trois, même quatre séries, j'ai envie de dire. Une dont je vous ai déjà parlé, d'ailleurs. Je vous avais parlé de la saison 1, mais sinon trois nouvelles séries avec une saison 1 ou saison unique aussi que je voulais vous partager pour ben voilà, que vous ayez de quoi vous mettre sous la dent. Elles sont assez variées, donc elles vont peut-être pas plaire au même public et du coup je m'étais dit c'est peut-être l'occasion aussi de vous le partager. Donc voilà, donc je vous parlerai de Fallout que j'ai terminé, série adaptée du jeu vidéo du même nom. Je vous parlerai également de Ripley, nouvelle série disponible sur Netflix. Fallout, c'est disponible sur Prime, Amazon Prime Video. Je vous parlerai de Ripley disponible sur Netflix, qui est une série adaptée peut-être d'un livre que vous connaissez, mais peut-être que certains d'entre vous ont déjà vu un des films qui a été sorti, je ne sais pas, c'était peut-être dans les années 90 ou 2000, le talentueux Mr. Ripley. C'est exactement la même histoire, mais traitée en série et traité différemment. Et je vous parlerai également de la série Archie, disponible sur Canal+, qui va parler un petit peu de la vie de Cary Grant, cet acteur ultra connu, plutôt d'une ancienne génération, qui s'appelait Archibald à l'époque, et un petit peu bah, voilà, son enfance, certaines périodes de sa vie, dont son enfance. Et c'était hyper intéressant pour ceux qui connaissent l'acteur et notamment son œuvre cinématographique. C'est assez intéressant d'en apprendre plus sur la personne derrière l'acteur de grande renommée. Voilà, donc Archie sur Canal+, mais je vous en parlerai en fin d'émission. Voilà pour le sommaire ce matin, j'espère qu'il vous plaît. Et je vous propose tout simplement de commencer par le premier article, tout de suite avec Apple et le fameux événement Apple. Alors, Apple donc tiendra officiellement, donc comme je disais tout à l'heure, sa première keynote de l'année aujourd'hui à 16h heure française. Rendez-vous sur le site internet pour ceux qui se demandent comment regarder les annonces en direct. Cette présentation devrait largement se concentrer sur les iPads et un nouveau Pencil. Alors, l'iPad Pro devrait être la star de l'événement aujourd'hui. Hein. Il a quand même attendu de pied ferme depuis plusieurs années. Et là, cette fois-ci, c'est l'iPad Pro avec l'écran OLED, enfin, qui serait de la partie, hein, qui permettrait donc d'avoir des noirs plus profonds, un meilleur contraste, des couleurs plus vives et une meilleure efficacité énergétique. Alors, il y aurait traditionnellement deux modèles et deux formats qui seraient proposés, un iPad Pro, 11,1 pouces, donc légèrement plus grand que le format 11 pouces actuel, je pense, et un iPad Pro 12,9 pouces. Là, c'est le format vraiment grand qu'on connaît déjà, hein, il me semble. Il devrait être beaucoup plus fin que le précédent modèle et normalement, concernant le processeur qu'ils embarqueront, il y a potentiellement deux possibilités qui s'offrent à nous. Soit Apple, comme certaines rumeurs l'ont partagé, inaugurera et fera des iPad Pro les premiers modèles qui embarquent la nouvelle puce M4 améliorée pour l'intelligence artificielle avec la partie neuronale, avant les possibles mises à jour Mac, MacBook et iMac de la WWDC de juin. Et soit Apple, finalement, resterait sur les puces M3 que l'on connaît déjà avec l'iMac et le MacBook Air et gardera l'effet de surprise des puces M4 plutôt pour la WWDC. Donc là, à voir. Moi, personnellement, s'ils annoncent une puce M4 à la WWDC, je trouverais ça quand même une occasion manquée de ne pas l'avoir déjà sur les nouveaux iPads annoncés là, un mois avant, quoi. Ça serait quand même dommage. Mais bon, à voir, on le saura aujourd'hui en tout cas. Il y a d'autres rumeurs qui ont été également évoquées, hein, notamment le déplacement de l'appareil photo frontal vers le côté, c'est-à-dire vers le côté le plus long, et donc ce qui permettrait d'avoir finalement la caméra au-dessus lorsqu'il est en position paysage, ce qui est finalement, j'ai l'impression, l'usage le plus traditionnel de l'iPad aujourd'hui pour les gens, j'ai envie de dire classiques, qui l'utilisent principalement sur un... Voilà, en mode stand, c'est plutôt en format paysage qu'on l'utilise plutôt qu'en mode portrait. Et donc, du coup, ben, moi, je trouve ça vraiment bien parce que c'était pénible. C'était pénible, là, d'avoir cette caméra toujours sur le côté. Ça ne fait pas naturel dans la manière quotidienne dans laquelle je l'utilise, où vraiment, je ne l'utilise jamais en mode portrait, mais vraiment jamais. Alors après, c'est vrai que quand on l'utilise, j'imagine, pour prendre des notes sous forme de tablette pour prendre des notes, je pense que c'est plus traditionnel de l'utiliser en mode paysage, en mode portrait, pardon, comme une feuille finalement, comme une feuille de papier, mais je ne suis pas sûre que ce soit l'usage le plus répandu. J'en sais rien. À voir. Vous l'utilisez plutôt dans quel format dans la chatroom votre tablette? Parce que c'est une question qui peut être autant valable pour les iPads que pour les tablettes Android d'ailleurs. Si on l'utilise en carnet de notes, on n'utilise pas la cam. Ça t'arrive pas de prendre des photos? J'imagine, moi qui avais travaillé notamment pour des applications de beauté, de diagnostic beauté, il y avait l'utilisation de la caméra quand même. Et il l'utilisait sous forme de carnet, donc vraiment portrait, vertical. Mais il y avait aussi la notion de pouvoir prendre aussi des photos ou d'analyser le visage. Paysage. Toujours format paysage aussi pour Lambda 42. 50-50 pour WithJoy, donc intéressant. Quand il y a... est-ce que l'iPad peut remplacer un ordinateur? Ah non, mais là, c'est pas la question. Ouais. C'est plutôt pour la prise de notes, au moins. Patitus nous dit plutôt paysage. Caro nous dit plutôt portrait. Intéressant. Ainsi que Eric12N. D'accord. Paysage, la plupart du temps. 80% paysage. 50-50 aussi pour Nounix. Hyponomie, plutôt portrait. D'accord. Portrait pour les partitions. Ouais, mais alors, du coup, les partitions, en effet, t'as pas besoin de la caméra, j'imagine, un de vous. Mais c'est intéressant d'avoir le détail de pourquoi tu l'utilises en mode portrait. En effet, pour les partitions, il y a aussi la notion plus de livre ou de voilà, plutôt vertical pour voir plus de partitions, que ce soit plus facile à lire. Ouais. Pas de photos, non, je regarde des films, je prends des notes, je joue avec, je regarde Internet. Ouais, c'est vraiment pareil pour moi. J'ai le même usage que toi, Manon. Portrait pour lire des articles, mais en grande majorité, paysage pour la vidéo, ouais. Caméra me sert uniquement à Face ID et du coup, c'est mal placé 90% du temps. Ouais, c'est ce que je me dis aussi, ouais. Très bien. Paysage avec clavier. Portrait parce que mini. Ah, intéressant. Prise de notes en portrait pour ma part, pour Fluffy, ouais. Très bien. Seul usage vertical, partition aussi, d'accord. Idem, portrait pour les partitions. Ah, on a beaucoup de musiciens dans la chatroom. Trop classe. Trop bien. Ok. Ok, donc en effet, je me dis, pour l'usage que vous avez, peut-être prise de notes, partition, etc. Et en effet, complètement logique que ça soit plutôt portrait comme orientation que vous choisissez. Mais du coup, je me dis que finalement, quand même, la tendance qu'on voit dans les messages que vous avez partagés dans la chatroom, c'est que la plupart d'entre vous l'utilisent quand même en fonction paysage. Et donc, du coup, c'est vrai que ça sera quand même intéressant s'ils arrivent à bouger, en tout cas, la caméra. À voir, en tout cas, c'est une des rumeurs. Il y aurait également peut-être, en autre rumeur, hein, attention, c'est rien de confirmé encore une fois, une prise en charge MagSafe, également jusqu'à 4 teraoctets de stockage et potentiellement, la rumeur qui fait moins plaisir, une augmentation des prix de l'iPad liée à l'écran OLED. Voilà, donc alors qu'aujourd'hui, il est déjà vendu à plus de 1 000 € dans sa version la moins chère. A priori, l'iPad Pro là, de cette nouvelle génération pourrait coûter jusqu'à 200 € de plus et peut-être pour les plus chers, verraient leur prix augmenter de quelques 700 €. Donc à voir, toujours à prendre avec des pincettes un peu les annonces de prix. Il y a eu aussi pas mal de ratés dans le passé, donc à voir, hein. Ça reste tout ça des rumeurs. En ce qui concerne l'iPad Air, donc il y aurait potentiellement aussi une nouvelle génération, une sixième génération ici d'iPad Air qui pourrait faire son entrée avec un changement de taille, l'introduction de deux modèles différents. Le premier serait sensiblement le même que celui actuellement commercialisé, disposant ainsi d'un écran de 10,9 pouces. Et l'autre modèle, lui, mesurerait comme le plus grand de l'iPad Pro, 12,9 pouces, avec un écran LCD au lieu de l'écran OLED. Ça devient un peu technique quand même pour connaître la différence entre un iPad Air et un iPad Pro. À voir si c'est vraiment confirmé en termes de gamme de produits et à voir si les consommateurs arriveront à s'y retrouver ici. Apple ne devrait pas forcément changer grand-chose sur son iPad Air. Là aussi, peut-être la même démarche que sur l'iPad Pro en bougeant la caméra de place. Mais mine de rien, mis à part ça, peut-être de nouveaux coloris seraient proposés, mais rien de bouleversant ici pour l'iPad Air. Autre annonce potentielle, l'Apple Pencil, où je pense que voilà, il y a peu de chances que ça ne soit pas annoncé ici, surtout qu'on avait vu qu'il y avait une illustration qui mettait vraiment en scène en plus le Pencil qui tournait autour de la main. Donc, et c'est vrai que l'iPad a toujours été l'appareil favori pour le pencil, pour la créativité, etc. Donc, ça serait étonnant ici qu'il n'y ait pas de nouveau pencil annoncé. Voilà, il serait potentiellement appelé l'Apple Pencil 3. Il devrait être le premier stylet développé par Apple à prendre en charge la rétroaction haptique. Donc, ce petit retour haptique qui vibre et qui va du coup rendre plus précis et plus sensible d'un point de vue sensation et d'utilisation le pencil. Donc moi je suis vraiment intéressée par ça, c'est vraiment une amélioration. On pourrait également mentionner en termes de rumeurs qu'il y avait notamment des pointes magnétiques interchangeables qui pourraient faire leur arrivée, une compatibilité également avec le Vision Pro dans certaines applications de créativité et peut-être l'introduction d'un pencil noir aux côtés de l'unique modèle blanc à voir. Ensuite, autre rumeur de produits qui pourraient faire leur arrivée, voilà le Magic Keyboard, un accessoire qui est quand même devenu assez important hein, avec l'iPad ici, et il permettrait du coup de transformer votre tablette en véritable petit MacBook ultra portable. Je sais que Jérôme l'utilise pas mal comme ça, et que beaucoup de personnes finalement se posent la question entre un MacBook Air et un iPad Pro. Et donc, du coup, c'est assez logique qu'ils itèrent un petit peu sur leur Magic Keyboard. Donc, le 7 mai, donc aujourd'hui, Apple pourrait remplacer finalement le Magic Keyboard avec un nouveau modèle qui conserverait le silicone, mais avec une partie inférieure, elle, qui profiterait d'un passage en aluminium qui est réputé plus robuste et noble. Voilà. Et dernière rumeur potentielle pour les annonces de cette présentation aujourd'hui, Apple pourrait profiter de la journée pour annoncer l'exportation du Vision Pro hors des frontières américaines. Voilà, donc est-ce qu'il va en faire profiter d'autres pays anglophones comme le Royaume-Uni et le Canada ? La Chine serait aussi potentiellement concernée par ce lancement. Et on l'espère pour nous, Européens, des pays européens seraient aussi dans le groupe à voir. Encore une fois, c'est une rumeur. Donc voilà, vous avez un peu le tour des rumeurs pour ce qui pourrait potentiellement être annoncé aujourd'hui. Rien n'est confirmé, mais on le saura aujourd'hui à 4h. Donc rendez-vous à 4h aujourd'hui sur le site d'Apple pour voir et confirmer ou infirmer les rumeurs qu'on a pu discuter ces dernières semaines. Voilà pour Apple. Je vous propose de continuer avec Free cette fois-ci. Et là, c'est pas une rumeur, c'est confirmé puisque ça a été vu sur le site internet. Et ben, alors que Xavier Niel, à l'époque en 2022, en janvier 2022, avait fait une grande annonce avec une vidéo publiée et où il était déguisé en président de la République, avait fait une annonce tonitruante en disant « J'ai maintenu le prix des forfaits mobiles inchangé. Aucun autre opérateur ne peut revendiquer un tel bilan. » Et du coup, il avait annoncé « Je vous promets à nouveau de ne pas augmenter les forfaits à 2 euros ni ceux à 19,99 euros. » Et ce, jusqu'en 2027. Et ben finalement, 2 ans plus tard, on s'aperçoit que finalement, certes, le forfait de 2 euros n'augmente pas, il est toujours à 2 euros, mais pour la première fois, Free gonfle le prix de l'option booster qu'il met en avant sur sa page d'accueil. Cette option booster coûte désormais 4,99 euros par mois contre 2,99 euros auparavant. Donc ça, ça a été noté. Et donc du coup, c'est vrai qu'on avait vu depuis plusieurs mois que Free s'amusait un peu à faire évoluer son option booster avec un prix qui restait fixe jusqu'ici à 2,99 euros, mais parfois avec 1 giga d'internet, parfois avec 5 gigas d'internet, et il suffisait finalement d'ouvrir l'œil et d'y souscrire au bon moment pour bénéficier de l'offre la plus avantageuse au bon moment, puisque l'option booster ne concerne que les nouveaux clients. Mais là, ce qu'on voit, c'est que depuis le 6 mai 2024, depuis lundi, l'option booster à 2,99 euros n'existe plus en tant que telle. Elle est remplacée par une formule booster 20 gigas qui, elle, est donc à 4,99 euros par mois avec 20 gigas d'internet 4G en France et 10 gigas en Europe. C'est plus généreux, mais donc du coup avec une hausse de prix obligatoire ici. Donc, les personnes à l'heure actuelle qui bénéficiaient du forfait à 2,99€, enfin l'option booster à 2,99€, eux resteront inchangés. Donc, pas de problème ici pour eux, hein, pas d'impact négatif. Ils conserveront leur prix d'origine. Donc, pas d'inquiétude à avoir. Alors, du coup, comment se positionne Free par rapport aux concurrents? Est-ce que Free reste imbattable ici sur la guerre des prix? Eh bien, pas. Vraiment, pas forcément ici. En réalité, à 6,99€ par mois, tous les opérateurs proposent une offre similaire. Et ça a été constaté par Numérama qui a fait sa petite enquête. On a SFR, donc Red, et Bouygues qui font mieux avec 11 gigas ou 16 gigas d'Internet en Europe. Orange, Soch, qui est le moins bien loti, avec eux 10 gigas d'Internet en France au même prix. En revanche, l'offre de Free, elle, n'a pas d'équivalent pour les abonnés Freebox, et ça, c'est la différence, qui, eux, économisent toujours 2 euros tous les mois, puisqu'ils ont des prix avantageux et avantagés, finalement, par rapport à ça. Donc voilà. Donc, vous savez ce qu'il en est très exactement en ce qui concerne ces évolutions de prix du côté de Free. Pas étonnant que Free essaye de s'aligner avec les compétiteurs et de faire plus de bénéfices et de revenus. Hein. Voilà, donc rien de très étonnant ici pour Free. Tout à fait, David Le Pandafou, c'est ce que tu dis, rien d'étonnant en effet. Voilà, donc la grosse différence en effet, c'est plus de gigas d'Internet, donc 20 gigas au lieu de 1 ou 5 pour l'option booster. Voilà. On continue et on va parler cette fois-ci de pub et de modèle économique. On parlait de Free qui changeait son offre de forfait. Mais là, on va continuer un petit peu sur la même thématique, sur d'autres services et d'autres acteurs qui un peu changent leurs offres pour s'y retrouver, pour retomber un peu sur leurs pattes et générer plus de revenus et de bénéfices. Et là, cette fois-ci, ce qui est intéressant, c'est un article de Presse Citron qui partagent des informations qui ont été recherchées et trouvées par Business Insider sur justement des informations un peu plus concrètes sur les revenus générés par les formules avec de la pub des abonnements des plateformes de streaming vidéo. Voilà, donc on se pose, c'est vrai que c'est intéressant parce que ça fait maintenant un peu plus d'un an que Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, voilà, enfin plein de grands noms du streaming ont lancé des offres avec publicité. Alors, à l'époque de ces annonces, ça nous avait laissé un petit peu Bah, un peu perplexe, sceptique hein, au moment des annonces de ces offres. On s'est dit, on s'est tellement habitué finalement à voir le gros avantage de ces plateformes de streaming sans publicité finalement, que c'est quand même un peu gonflé et nous prendre un peu pour des idiots que de nous proposer des formules soit gratuites, soit payantes, mais avec de la pub pour Amazon Prime Video. Et que surtout, une des raisons pour lesquelles les utilisateurs, en tout cas c'était une hypothèse à l'époque, pour laquelle les utilisateurs étaient allés sur ces plateformes de streaming, c'était de ne pas avoir de publicité. Moi, je pense que ça n'a jamais été la raison principale, pour être honnête. Ça n'a jamais été la raison principale pour laquelle j'ai souscrit à une plateforme de streaming où je regardais de la VOD plutôt que la télé. C'est qu'en fait, j'apprécie de pouvoir regarder le programme que je souhaite au moment que je souhaite. Et ne pas être dépendante d'une grille horaire fixe qui va dicter les horaires de mon quotidien. C'est quelque chose qui ne fonctionne pas chez moi. Surtout, j'ai perdu l'habitude durant mes études parce que j'étais en internat. Et donc, du coup, j'ai complètement arrêté de regarder la vidéo quand je suis partie, enfin, de regarder la télé quand j'étais en internat parce qu'on n'avait pas de télé à disposition à l'époque. Et donc, du coup, je me suis complètement reportée sur Internet. Et donc, du coup, je n'ai pas changé mes habitudes. Quand je veux voir quelque chose, trouver une information ou suivre l'actualité, je vais sur Internet, c'est mon premier réflexe. Et donc, j'ai mes apps ou mes chaînes préférées pour chaque usage. Et donc, du coup, pour moi, c'était vraiment la VOD, la vidéo on demand, au moment où moi, je veux la regarder, qui a été vraiment ma raison principale. Alors là, c'est vraiment un avis très personnel. Je ne suis pas en train de dire que c'était la raison principale pour chacun. Mais moi, en tout cas, personnellement, ça a été ma raison principale de ne jamais retourner sur la télévision. Et donc, du coup, là, c'est quand même intéressant de se poser la question, c'est quoi l'impact concret, finalement, de la publicité en termes de revenus, et est-ce que ça fonctionne vraiment? Et donc, du coup, on a Business Insider qui ont échangé avec 7 agences de publicité pour connaître justement les prix qui étaient pratiqués par ces géants du streaming et du divertissement aux États-Unis. Et donc, du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont eu des informations sur ce qu'on appelle le CPM. Le CPM, c'est un terme très connu dans la publicité parce qu'en fait, ça veut dire que c'est le coût payé par un annonceur. Un annonceur, c'est quelqu'un qui veut diffuser une publicité pour 1000 visionnages de leur publicité sur une plateforme de streaming. Voilà, sur une plateforme de streaming ou ailleurs. Mais en tout cas, ici, dans le cadre de cet article, c'est sur un des acteurs de streaming. Et donc, du coup, c'est vrai que comme lorsque vous allez faire une campagne d'affichage dans le métro ou sur la voie publique ou à la télévision, il y a toujours cette notion de CPM, de coût par nombre de visionnages. Et donc, traditionnellement, c'est 1000 visionnages. Voilà, donc on a cette information et donc plus le coût est élevé ici, plus l'acteur de streaming va récupérer du gain. Voilà, plus ça génère du revenu ici. Et donc du coup, on apprend donc que le CPM de Netflix, lui, se situe entre 38 et 55 dollars. Donc je rappelle, pour 1000 visionnages de la publicité. Donc, pour son forfait publicité, qui est utilisé quand même par 15 millions d'utilisateurs à travers le monde. Voilà. Donc, c'est moins ce qu'il facturait à l'origine, hein, qui était plutôt situé à 65 dollars. Ils ont tous revu un peu leur prix à la baisse. Mais aussi, c'est pour attirer les annonceurs, je pense, dans un premier temps. Où il faut qu'il y ait un mouvement des annonceurs qui bougent finalement de la télévision et se déporte finalement sur les plateformes de streaming. Et ça va être intéressant à observer comme mouvement. De l'autre côté, on a Disney qui a un CPM, lui, un peu inférieur, entre 22 et 40 dollars, donc un peu inférieur à Netflix, alors que lui facturait aussi déjà un prix un peu inférieur de 50 dollars. Et donc, le nombre d'abonnés au forfait avec publicité, lui, approche le million. Donc, beaucoup moins important. On a Netflix à 15 millions avec le forfait publicité. On a Disney Plus avec 1 million ici, aux alentours d'un million d'abonnés avec le forfait publicité. Et puis enfin, le dernier arrivé, c'est Amazon Prime Video, qui lui a le CPM le plus bas finalement, entre 13 et 35 dollars d'après les agences. Elle a fait donc parler d'elle, hein, cette plateforme, puisqu'elle avait activé les pubs par défaut sur le service, sauf pour les utilisateurs qui acceptaient de payer encore un coût supplémentaire. C'est-à-dire que là, c'est une stratégie différente de Netflix et Disney+. c'est que le forfait par défaut que les gens payaient, qui était finalement leur abonnement Amazon Prime Video, Amazon Prime, dans lequel était inclus un accès à Amazon Prime Video, donc ce forfait qui finalement était inclus dans le forfait, dans l'offre Amazon Prime d'Amazon, avait pas de pub. Donc finalement, ils ont ajouté la pub et maintenant, il faut changer et souscrire un abonnement supplémentaire pour enlever la pub. Donc ici, ça veut dire qu'ils ont beaucoup plus d'abonnés. On n'a pas les chiffres ici. Mais du coup, par défaut, bah, on imagine, puisque là, c'est un changement par défaut, hein, c'est la majorité finalement des abonnés Amazon Prime Video vont avoir de la pub. Donc, ils vont, certes, ils ont un CPM plus bas, mais ils ont plus de monde aussi. Donc, ça, c'est intéressant ici. Et enfin, celui qu'on n'a pas encore en France, c'est Max, le service de Warner Bros. Qui va être lancé cette année en France, avec un CPM, lui, qui se situe entre 33 et 53 dollars. Donc, vraiment un tout petit peu plus bas que Netflix ici. Et d'ailleurs, d'après les sources de Business Insider, le CPM varie en fonction des programmes sur lesquels la pub est présentée. Par exemple, des programmes un peu plus premium comme Game of Thrones, et ben en fait, le CPM serait plus haut. Donc ça, c'est intéressant aussi. En fonction on peut se dire que le CPM varie en fonction de la qualification du public, en fonction du programme, etc. Donc ça, c'est assez intéressant aussi comme stratégie. Donc ça vous montre un petit peu comment ils définissent un peu leurs offres par rapport aux annonceurs. Ils, c'est-à-dire les plateformes de streaming, définissent leurs offres et leurs offres commerciales auprès des annonceurs. En tout cas, quoi qu'il en soit, hein, l'arrivée de ces géants du streaming sur le marché publicitaire va vraiment sonner comme un signal d'alarme pour les acteurs de la télévision. Et ça va être très intéressant de voir un peu comment le secteur de la publicité va changer. Et je pense que ceux qui vont être impactés, ça va être la télé, le cinéma et donc les plateformes de streaming ici, pour voir un peu quels sont les annonceurs qui vont un peu émerger. Ça va être très très intéressant de voir. Peut-être que les prix vont évoluer aussi, très certainement, je pense aussi. Donc ça va être très intéressant. En tout cas, moi, clairement, en termes de pub, bon, moi j'ai toujours YouTube, hein, parce que je ne paye pas mon abonnement YouTube, donc j'ai toujours des pubs ici. Mais bon, j'en avais avant, là j'en ai juste plus qu'avant. Amazon Prime Video, où j'en ai désormais. Et ce qui est encore en plus surprenant, c'est que j'en ai qui interrompent le programme. Canal Plus aussi, j'en ai. Il y en a toujours eu finalement avant certaines séries ou certains films. Pas systématiquement, mais toujours. Et puis après, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit aussi des pubs différentes, pas forcément d'annonceurs externes, mais carrément les plateformes de streaming qui font la promotion de programmes de la plateforme. Et donc ça, c'est disponible sur Disney+, Amazon Prime Video, Apple TV également, Amazon Prime Video, voilà. Donc ça, c'est pas nouveau comme pratique, les plateformes font déjà leur promo de leur programme. Et Canal+, en payant aussi, en tout cas, moi, avec l'abonnement que j'ai sur Canal+, j'ai quand même de la pub. Encore une fois, pas sur tous les programmes, mais sur certains, oui. Il me semble, ouais, Oleg, que j'ai eu... peut-être que je me trompe avec Canal+. J'ai un doute. Tu me demandes, en effet, sur Prime Video, j'ai des pubs en cours de programme. J'ai pas encore vu ça pour ma part. Je suis pas sûre. Je confonds peut-être avec Canal+. C'est possible. Je réfléchis les derniers trucs que j'ai regardés. Je pense d'abord que c'est déjà plus des films. Je me rappelle plus la dernière fois. Je sais que ça m'avait énervé. Je sais que ça m'avait agacé quand je l'avais eu. Mais je suis incapable de retrouver quel était le programme que j'avais regardé. Tu as un abo discount sur Canal? Non, je pense pas. J'ai l'abonnement standard avec des options. C'est tellement compliqué, les abonnements Canal+. donc voilà. En tout cas, c'est intéressant. Ça fonctionne. Ça fonctionne. Et on s'aperçoit finalement que moi, je suis pas prête à abandonner Amazon Prime Video, même s'il y a de la pub dessus. Ça m'agace, mais c'est un agacement que je suis prête à accepter, comme je le fais déjà pour YouTube, comme je le fais déjà pour Canal+. Voilà, donc finalement, ça rentre un peu dans mes habitudes finalement. Donc je n'irai pas payer un surplus pour enlever la pub, mais j'accepte d'utiliser les plateformes où il y a de la pub encore. Donc ça montre bien que moi, en tout cas, en ce qui me concerne, je suis prête à continuer. Sur Prime, j'ai l'impression que la pub n'est pas encore arrivée chez tout le monde. C'est possible, hein, Disco Benji. C'est possible. Canal+, c'est bien plus soft, plus court et surtout, c'est juste leur programme, eux, pas de la pub à proprement parler. Alors non, moi, Olivier, moi, j'ai vu de la pub. J'ai vraiment vu de la pub. Le truc classique, c'est la pub Nespresso avant un film. Ça, c'est le grand classique Canal+, quoi. Donc si, si, moi, j'ai vraiment de la pub hein, sur Canal+. Mais c'est, en effet, c'est relativement court. Et assez, enfin, des annonceurs assez premium aussi, généralement, je crois. Voilà, donc à voir. On continue avec un autre acteur qui modifie ses offres, c'est Spotify. Spotify qui, voilà, depuis quelque temps, voilà, l'application permettait de enfin, depuis quelques mois, Spotify avait décidé non seulement d'augmenter des tarifs en ce qui concerne ses abonnés premium, mais aussi de rajouter un petit peu des barrières pour ceux qui utilisaient la formule gratuite. L'idée, c'est vraiment ici de faire passer de plus en plus de personnes de la formule gratuite de Spotify avec des publicités et des limitations de fonctionnalités et d'écoute à les faire passer sur, évidemment, la formule payante. Voilà. Et donc ça, c'est assez intéressant. Voilà, vraiment pousser un maximum d'utilisateurs d'opter pour la formule payante. Et une manière de le faire, c'est de transférer plus de fonctionnalités ou les fonctionnalités qui ont le plus de succès sur la formule gratuite, finalement sur la formule payante. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, finalement, la formule gratuite va bientôt perdre une des fonctionnalités très appréciées, le karaoké. C'est l'affichage en temps réel des paroles lorsque vous écoutez un titre ici. Donc, c'est une fonctionnalité qu'on retrouve déjà sur d'autres plateformes, hein, à commencer par Apple Music. Donc, c'est pas nouveau, mais ça permet tout simplement aux gens de chanter par-dessus. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui marche pas mal en soirée, etc., pour rigoler. Et on a vu notamment sur les forums, plusieurs utilisateurs de la formule gratuite ont eu la mauvaise surprise ici de voir la fonction karaoké supprimée. Et en fait, à la place, ils ont vu tout simplement cet affichage Enjoy Lyrics on Spotify Premium. Donc clairement ici, pour montrer que pour bénéficier de cette fonctionnalité de karaoké et d'affichage de paroles, et ben maintenant, il faut tout simplement passer sur la formule Premium. Donc c'est aussi simple que ça. Ça semble petit, mais pour ceux qui ont l'habitude finalement d'utiliser cette fonctionnalité, ça peut être un petit peu agaçant. Et finalement, de se dire, bon, bah allez, ça y est, j'y passe, ça peut être un peu le déclencheur. Donc, est-ce que vous, vous étiez utilisateur en tout cas de la fonctionnalité karaoké? Est-ce que c'est quelque chose qui va vous manquer finalement dans la chatroom? En attendant, j'en profite pour remercier ceux qui nous ont soutenus ce matin. Sandokan, Maison Harkonnen, Isa33, Polestarx et Dr. Guro pour vos soutiens. Un grand, grand merci à vous. Ça nous permet de rémunérer les personnes qui travaillent pour produire du contenu de qualité sur la chaîne. Donc un grand, grand merci à vous. Ma femme fait la tête, mais moi, ça me manquera pas. Bah, tu vois, comme quoi, Manon, hein, c'est vraiment, ça dépend des habitudes et des coups de cœur de chacun, voilà, en ce qui concerne la musique. Non, je chante comme une casserole. C'est pas un critère, un nouveau. C'est pas parce que tu chantes comme une casserole que tu ne peux pas t'amuser en faisant du karaoké. C'est même, je dirais, encore plus marrant quand des gens qui chantent comme une casserole assument complètement. Olek, le rabat-joie, si ça peut empêcher les gens de massacrer les titres, tant mieux. Par principe, je râle si on m'enlève une fonction, même si je l'utilise jamais. Pas mal. Ça, c'est le vrai français. Jérôme. Donc voilà, en tout cas, vous êtes au courant maintenant, plus de karaoké possible facilement avec la formule gratuite de Spotify, vous êtes prévenus. Est-ce que ça va suffire pour séduire les personnes pour profiter et passer à l'offre premium ? À voir, en tout cas, vous le saurez. Mais en tout cas, c'est vrai que depuis quelque temps, je ne sais pas si c'est le cas pour vous, mais l'article de Presse Citron note qu'ils avaient fait un article il y a quelques jours avec un retour d'expérience. Pourquoi je quitte Spotify après plus de 10 ans de fidélité ? Et c'est intéressant, on voit qu'il y a de plus en plus de personnes qui envisagent finalement de quitter la plateforme. La faute à la hausse des prix, mais aussi à des fonctionnalités absentes côté audio notamment. À voir si c'est quelque chose qui est en train de se passer. C'est vrai que c'est un vrai danger pour Spotify ici. Surtout, notamment, moi, je le vois avec des abonnements groupés du type Apple One, les abonnements de famille, etc. Nous, c'est ce qu'on a fait finalement avec Jérôme. On a pris un abonnement famille Apple One pour bénéficier du même abonnement et d'avoir Apple Music, etc. ensemble. Et donc, c'est vrai que c'est une vraie menace parce que c'est un avantage finalement stratégique de la part d'Apple d'avoir des abonnements un peu tout en un où tout est combiné. Et donc, du coup, surtout quand il y a la famille, etc., bon, bah, on se dit on bénéficie du cloud un peu plus important, on bénéficie d'Apple TV, d'Apple Music, etc. On ne se prend pas la tête. Voilà, donc c'est un vrai danger ici pour Spotify à voir. Ça serait intéressant de voir les chiffres d'abonnement et les progrès de croissance qu'on verra peut-être un peu plus à la fin d'année avec les bilans respectifs. Mais voilà. On attend toujours Spotify Hi-Fi. En effet, c'est la qualité du son en lossless et en Atmos qui manque et tout. Tout à fait. Donc, à voir. Et pour certains, Apple Arcade, comme nous dit Baron Maritain. Tout à fait. Donc, voilà en ce qui concerne Spotify. Je vous propose de continuer. Cette fois-ci, on va continuer avec un segment piratage, accès illégal au contenu, protégé par les droits d'auteur, etc. On va faire un premier point et un premier tour du côté de l'ARCOM avec justement un bilan annuel 2023 qui a été publié par l'ARCOM avec l'audience des sites de piratage, a priori qui est en baisse en France. Et donc, du coup, l'analyse qui a été publiée a permis de constater qu'il y a quand même 16% de la population qui consomme toujours de manière illicite des biens culturels et sportifs dématérialisés, soit environ 8,5 millions d'internautes. Et cela reste important, évidemment, mais l'ARCOM, ici, préfère voir le verre à moitié plein. Et il note surtout la baisse de 27% par rapport à 2021. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même, à l'époque, en 2021, il y avait 11,7 millions de fraudeurs qui étaient répertoriés. Et en 2023, c'est passé à 8,5 millions. Donc, il y a une baisse quand même très nette ici. Et donc, du coup, l'ARCOM, qui a évidemment hérité des missions de la DOPI, hein, ajoute « Si le recul du recours au streaming, au téléchargement direct et au peer-to-peer, eux, ils disent au pair-à-pair, moi, je dis au peer-to-peer, se confirme, cela contraste avec une légère progression du live streaming. Celle-ci peut notamment s'expliquer par le développement de nouveaux modes de diffusion comme la télévision par Internet avec l'IPTV ou le recours aux réseaux sociaux pour partager des liens permettant d'accéder illégalement à des contenus en direct. » Voilà, donc pour aller plus loin, l'ARCOM appelle désormais de ses voeux à l'implication des fournisseurs de VPN et de DNS alternatifs dans l'application de la loi. On savait déjà qu'ils avaient visé les fournisseurs d'accès Internet, hein, les FAI, et maintenant, évidemment, ils se tournent et appellent de leur vœu les VPN et ceux qui fournissent les DNS alternatives. Voilà. Et en effet, ces derniers servent de plus en plus aux internautes pour accéder à des contenus piratés. Certes, en tout cas, le combat est loin d'être encore gagné. On a un récent rapport qui a été publié par l'Access. C'est l'association des chaînes thématiques qui mentionne que 5,1% de la population utilise régulièrement quand même des plateformes d'IPTV pour accéder à des contenus culturels et sportifs de manière illégale. Donc voilà, donc il y a quand même certains usages. Ce qui est intéressant, c'est que je pense qu'il faut mitiger un petit peu le rapport de l'ARCOM qui certes, il y a une certaine baisse sur le téléchargement de contenu, mais parce qu'en fait, il y a d'autres solutions, notamment le temps réel, le streaming en direct, qui permet de finalement changer les usages. Donc, c'est peut-être pas tant finalement une baisse du piratage, mais un déportement ou un changement d'habitude. Alors même, a priori, quand même, il y a quand même une certaine baisse, mais voilà, à mitiger un petit peu. Je regarde un peu vos commentaires en même temps. Et j'en profite pour remercier Geeky Vaya et Harry Potter WTFA pour vos soutiens. Un grand, grand merci à vous pour vos soutiens. Donc voilà, le piratage, on n'en a pas fini, en tout cas en France. Voilà, on continuera évidemment de suivre la tendance parce que c'est quand même intéressant et ça montre un peu les habitudes des Français en termes de consommation de biens culturels. On continue, et cette fois-ci, on continue notamment avec la lutte contre le piratage ou l'accès illégal à du contenu. Et cette fois-ci, c'est Nintendo. Nintendo qui continue sa croisade contre l'émulation Switch. Et ils ont fait notamment tomber 8500 copies de l'émulateur à travers le web. On le sait pour le contexte que Nintendo avait déposé plainte fin février dernier auprès des développeurs du fameux émulateur Switch Yuzu qui avait accepté d'arrêter la distribution du code du logiciel, qu'ils avaient payé des dommages et intérêts quand même à hauteur de 2,4 millions de dollars tout en cessant le développement de l'émulateur. Mais vous le savez avec Internet, c'est pas parce que vous l'enlevez quelque part que les gens n'ont pas eu le temps de faire des copies ailleurs. Et donc depuis, des milliers de liens GitHub permettent malgré tout aux récalcitrants de choper le code de l'émulateur avec des variantes, plus ou moins des variantes de l'émulateur Yuzu. Voilà, pour l'installer sur leur PC ou leur appareil Android. Donc évidemment, ça plaît pas à Nintendo. Et donc du coup, Nintendo, c'est ce qu'ils disent, les liens GitHub qui hébergent Yuzu ou une variante sont considérés comme illicites par l'entreprise qui a donc envoyé une demande de retrait auprès de GitHub de plus de 8500 dépôts. Et notamment, une citation de Nintendo, c'est Yuzu est conçu pour contourner illégalement une mesure technologique qui contrôle efficacement l'accès à une œuvre protégée sous le DMCA. Le DMCA, pour rappel, c'est la loi américaine qui vise à protéger les droits d'auteur. Et il est vrai, en fait, que l'émulateur, quand même, pour rappel, utilise des clés de chiffrement afin de pouvoir débloquer et jouer à des jeux Switch sans les acheter. Et parce qu'en fait, ces clés restent encore aujourd'hui assez simples à trouver sur le web. Et donc, du coup, on a eu d'autres émulateurs un peu moins inspirés de Yuzu, comme Suyu, qui ont eu aussi droit au même traitement. Certains émulateurs, eux, n'ont pas encore subi l'attaque de Nintendo, comme Ryujinx, l'émulateur open source, toujours en développement actif, qui est encore accessible uniquement sur PC ou Mac. Mais c'est peut-être qu'une question de temps. Vous êtes prévenus. En tout cas, les actions de l'équipe légale de Nintendo, elles restent compréhensibles ici, parce qu'en fait, logiquement, pour des jeux vidéo qui sont encore... pas des jeux vidéo, mais en tout cas pour des consoles comme la Switch, qui sont encore commercialisés, c'est normal que Nintendo essaye de travailler pour combattre le piratage de jeux. La console est encore là, il faut soutenir la création et rémunérer les créateurs de jeux vidéo ici. Mais qu'en est-il des logiciels dont le but est d'émuler d'anciennes consoles, finalement? Et c'est notamment le cas de Citra, qui a fait malheureusement, en même temps que Yuzu, les mêmes frais et l'arrêt total de son développement. D'autant que Nintendo a supprimé l'accès à l'eShop de la Nintendo 3DS, et donc ça veut dire que y a certains jeux qui étaient accessibles uniquement de manière digitale via le fameux eShop Nintendo 3DS, qui sont un peu tombés dans le néant ici, et potentiellement dans l'oubli. Et ça, c'est vraiment dommage, je trouve, d'un point de vue même culturel, de ne pas permettre d'émuler certaines consoles qui ne sont plus commercialisées. Voilà, donc ça, pour moi, il y a une vraie différence entre un émulateur de console qui est encore commercialisé et un émulateur de console qui n'est plus commercialisé, qui va permettre du coup de pouvoir continuer à jouer des jeux et qui font partie finalement de l'histoire vidéoludique. Voilà, donc ça, je trouve que même d'un point de vue culturel, de pouvoir continuer à garder l'accès, c'est un vrai travail qui bénéficie à tous, finalement. Donc pour moi, j'y vois vraiment deux sujets différents ici. L'émulation de consoles encore commercialisées et l'émulation de consoles qui ne sont plus commercialisées. Mais après, je ne suis pas une experte du sujet, mais c'est mon avis personnel. Voilà. Donc à voir. À voir, parce que c'est pas évident aussi d'essayer de jouer un peu à whack-a-mole, vous savez, à essayer de taper sur chaque top qui essaye de sortir de son trou, parce que une fois que vous avez réussi à faire une copie d'un émulateur, mine de rien, vous allez toujours avoir des gens de communauté qui sont motivés pour les faire ressortir quelque part, voilà, sur Internet, quoi. Donc à voir, à voir, à voir. Dernier article du jour, on termine tranquillement avec des séries télé. Séries télé, je ne voulais pas vous laisser en plan pendant un mois sans parler de séries télé quand même. Et donc d'abord, la première news qui est importante pour les fans de Star Wars, c'est l'arrivée d'une nouvelle série télévisée sur Disney+, qui s'appelle The Acolyte. Donc voilà, après quelques séries qui ont eu plus ou moins de succès, comme Obi-Wan Kenobi ou Le Livre de Boba Fett, ou d'autres qui ont rencontré un vrai succès, comme Andor ou Ahsoka. Voilà, on a encore une nouvelle série très attendue, a priori, The Acolyte. Et il y a eu la première bande-annonce qui a été diffusée en mai, et même un poster qui a été diffusé. Vous pouvez retrouver la bande-annonce sur un article de Numérama qui parle de la nouvelle série Disney+. Moi, je ne l'ai pas trouvé en promo dans l'application Disney+. Donc, pour ceux qui se disent, elle va peut-être être là et on peut souscrire pour être notifié quand elle sera disponible. Je ne l'ai pas trouvé. Donc voilà, mais vous pouvez trouver la bande-annonce facilement en ligne. Et donc, elle va être évidemment disponible sur Disney+, dans tout l'environnement Star Wars qui est déjà disponible. Et quand est-ce qu'elle va sortir ? Eh bien, elle sera disponible à partir du 5 juin prochain, donc très vite. Enfin, très vite. On est quand même déjà le 7 mai. On est quand même début mai, désolé. Donc, dans un peu moins d'un mois, il y a une nouvelle série Star Wars qui arrive sur la plateforme Disney+, toujours avec le rythme hebdomadaire, donc d'un épisode par semaine, avec l'exception du premier jour où il y aura deux épisodes disponibles à la sortie, mais après ça sera un rendez-vous chaque semaine. Voilà, donc l'histoire de The Acolyte, c'est quoi ? Eh bien, on va faire la connaissance de personnages que l'on ne connaît pas. Les événements se dérouleront durant la période de la Haute République, bien longtemps avant la menace fantôme, et donc un véritable âge d'or pour l'ordre Jedi. Mais justement, c'est durant cet âge d'or que celui-ci va être perturbé par des crimes étranges qui semblent provenir d'une résurgence du côté obscur. Et donc, on voit un étrange cite dans la bande-annonce un maître Jedi qui est également en train de mener l'enquête sur ce qui est en train de se passer. Au casting, on a quand même un casting qui a l'air d'envoyer du lourd. Carrie Ann Moss, moi c'est une actrice que j'aime beaucoup. Daphne Keane, alors le nom me dit quelque chose et ça me dit quelque chose de manière positive. Je n'arrive pas à remettre le visage, mais c'est... Ça me dit quelque chose. Alors, attendez, je vais quand même chercher. Pourquoi ce nom me dit quelque chose ? Hop. Ah, mais oui ! Ah, mais oui ! Je n'avais pas reconnu Is Dark Materials, l'actrice, l'héroïne de Is Dark Materials. Ok. Ouais, elle a un physique vraiment... elle a beaucoup de charisme. Je trouve, elle a un physique qu'on n'oublie pas. Elle a beaucoup de charisme, cette actrice. Je vous montre, parce que c'est pas du jeu. Mais voilà, elle a joué l'héroïne de Is Dark Materials, qui est disponible sur HBO. Voilà. Donc, c'est de là que moi, en tout cas, je la connaissais. Donc, voilà. Donc, quand même, déjà deux acteurs assez classe, enfin deux actrices assez classe. Aussi, l'acteur que l'on voit pas mal, le maître Jedi que l'on voit pas mal dans la bande-annonce, il a une bonne tête, il a aussi beaucoup, beaucoup de charisme. Donc, ça donne envie. En tout cas, moi, j'ai vu la bande-annonce. Je suis pas une fan absolue de Star Wars, quitte à en froisser quelques-uns, je préfère être honnête. Je suis pas une fan absolue de Star Wars, mais la bande-annonce m'a bien donné envie de regarder, franchement. Donc moi, je suis motivée. La prochaine série Star Wars, j'avais pas lu ça. J'apprends en même temps que vous. La prochaine série Star Wars à attendre après The Acolyte sera Skeleton Crew. Aucune date n'a été annoncée, mais il faut l'attendre. Pour la fin de l'année, et Jude Law, il sera maître Jedi. Allez, c'est vendu. Je pense que là, Jude Law dans la saga Star Wars, dans l'univers Star Wars. Alors ça, je veux voir ça. Je suis pas une fan absolue de Jude Law, mais ça, je veux quand même voir ça. Franchement, ça vaut le coup d'œil quand même. Ok. Rendez-vous pris. Vous êtes sûr que je vous reparlerai de cette série. Ok, waouh! J'avais lu rapidement l'article et j'avais raté cette petite phrase, cette petite pépite cachée en fin d'article de Numérama. Allez, c'est bon ça. Waouh! Ok. Très bien, très bien. Oh, joli Manon! Oh là là, Manon qui nous sort un jeu de mots du niveau de Jérôme ici. Tant que c'est pas une série low cost. Avec Jude Law, joli, joli, joli. Ça ne peut pas être low cost malgré le fait qu'il y ait Jude Law, justement. Ola qui dit, t'es pas une fan absolue, mais t'as quand même raté un battement de cœur sur le coup. Ouais, j'avoue, 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 parce que c'est un excellent acteur qui, je trouve, a su bien évoluer et bien vieillir aussi. Parce que voilà, il était quand même. C'est quand même un acteur avec une belle gueule et c'est toujours un peu risqué, je trouve, tu vois, de jouer uniquement là-dessus. Mais c'est un vrai acteur de talent. Et donc, du coup, j'avais été agréablement surprise les dernières fois que je l'avais vu. Et du coup, bah, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu là dans un programme, donc je suis curieuse de le voir là-dessus. Surtout que c'est dans un registre où on ne l'attend pas forcément. Attends, je réfléchis. Alors, si. Bon, il a fait science-fiction à Bienvenue à Gattaca. Certes, certes, qui pour moi reste un des meilleurs films, mais bon, il y avait plein de grands acteurs dans ce film. Mais là, là c'est. Ouais, Star Wars. En maître Jedi, je veux voir ça, ouais. En tout cas, c'était pas la seule série dont je voulais vous parler aujourd'hui. Bah, je voulais vous partager tout simplement des séries que j'ai regardées, que j'ai terminées. Et du coup, bah, vous en parler un petit peu pour ceux qui cherchent des séries à regarder. La première, c'est Fallout. Je vous en ai parlé, je crois, la semaine dernière. La semaine dernière ou la semaine d'avant, j'ai un petit doute. Mais Fallout, donc série télévisée dramatique, comique, post-apocalyptique américaine, voilà, qui est diffusée depuis le 10 avril 2024 sur Amazon Prime Video. C'est évidemment une adaptation de la franchise de jeux vidéo créée par Interplay Entertainment. Est désormais détenu par le studio de jeux vidéo Bethesda. Et on suit en fait un monde, une uchronie de la Terre qui a subi une guerre nucléaire apocalyptique. Et on se retrouve plongé finalement dans une société rétro-futuriste où en tout cas la technologie est restée bloquée à une certaine époque. Et ça, c'est vraiment, je trouve, l'atout finalement de cette série, de cette franchise, c'est l'univers rétro-futuriste ici que je trouve super bien fait, super classe. Notamment, moi, quelque chose qui m'a beaucoup marqué, que j'ai adoré tout au long des épisodes, c'est vraiment ce mélange rétro-futuriste avec la musique des années 60. Vous avez plein de titres excellents des années 60 qui sont en décalage complet avec la violence, le Far West que vous retrouvez dans cette espèce de désert désolé de la terre et de la surface, et qui rend vraiment ce décalage d'abord comique, complètement décalé, et qui montre aussi que la série se prend pas au sérieux. Et je trouve que ça fonctionne parfaitement, franchement. Et cette série qui vraiment se base sur du divertissement avec un certain suspense sur les grands méchants, sur le fonctionnement de la société, sur qui tire vraiment les ficelles de cette espèce de monde post-apocalyptique, fonctionne bien et prend un peu de corps au fur et à mesure des épisodes. Et je trouve que c'est vraiment bien dosé. Franchement, moi, j'ai trouvé que cette série, elle m'a tenue en haleine du début à la fin, avec trois personnages clés quand même. L'héroïne Lucy McLean, donc une jeune habitante de l'abri 33. Et donc, du coup, on a ceux qui font partie de la population qui a réussi se mettre à l'abri de cette apocalypse nucléaire dans des abris souterrains. Et donc, du coup, des générations ici qui ont évolué sans connaître la surface et donc selon des règles et des codes bien définis pour une bonne société, etc. Et tout en pensant que leur mission, à la fin, c'est de repeupler la surface quand le niveau de radiation sera suffisamment bas pour ne plus être une menace pour l'espèce humaine. Donc, voilà. Et puis, on suit également l'acteur Aaron Moten, qui joue Maximus. Maximus, il prend le rôle d'un écuyer de la confrérie de l'acier, la confrérie Steel, je ne sais pas quoi là, la confrérie de l'acier, voilà, qui va faire son parcours, qui a un parcours un peu plus dur. Il est une des victimes de l'apocalypse nucléaire. On verra comment, de par son histoire qui se déplie au sein des épisodes. Et l'autre acteur que l'on suit, l'autre personnage phare que l'on suit, c'est la goule. La goule, qui est jouée par l'acteur Walton Goggins, qui joue à la fois la goule et Cooper Howard, c'est le même personnage. En fait, c'est à l'époque avant l'apocalypse nucléaire, c'était un acteur de film, très connu, de vieux films d'époque. Vraiment, ça fait vraiment années 60 pour le coup, très old school. Voilà, enfin, on retrouve vraiment cette vibe des années 60. Et du coup, on voit son histoire à l'époque avant l'apocalypse nucléaire et après l'apocalypse nucléaire. On le retrouve en tant que ghoul ici, donc modifié finalement après cette apocalypse et devenu carrément un espèce de tueur à gages qui va... Bounty Hunter qui va essayer de chasser ceux qui ont leur tête mise à prix pour récupérer de l'argent ou notamment une certaine substance qui lui permet de rester une goule avec une conscience. Voilà. Relative. Mais voilà. Et donc, on suit ces trois personnages et leur histoire va se croiser, se connecter et ils vont avancer ensemble ou les uns contre les autres. Et voilà. Donc, moi, j'ai fini la première saison. Je vous ai pas fait trop de spoil ici, hein, honnêtement. Hein. Je vous ai spoilé peut-être le premier épisode. Mais pas plus que ça. Donc vraiment, j'essaie justement de pas spoiler et ça vaut la peine parce que vraiment, moi j'adore les premières saisons comme ça de ce genre de série parce qu'en fait tu vas apprendre vraiment plus sur chaque personnage, surtout ces trois personnages là, mais pas que, il y a d'autres acteurs secondaires très intéressants aussi pour la genèse et le contexte de l'histoire de cet univers post-apocalyptique qui est hyper intéressant. Et les enjeux augmentent deviennent de plus en plus intéressants au fur et à mesure où on avance dans l'histoire. Donc moi, j'ai trouvé que la série, la saison était très, très réussie. Elle s'est tenue en haleine. On a de l'empathie pour les personnages. Le personnage qui brille un peu moins, qui est un peu moins mis en avant, j'ai envie de dire, c'est Maximus. Mais quand même, il est attachant, mais il est un peu plus lisse pour l'instant que la goule et Lucie. Mais de par la fin de la saison, je soupçonne que ça va changer en saison 2. J'ai mes petits pronostics sur quelle va être l'intrigue de la saison 2. Je n'en parle pas parce que ça serait trop spoilé ou dévoilé pour ceux qui n'ont pas vu la fin de la série. Mais voilà, je suis très, très hypée par la fin de la saison. J'ai très, très hâte de voir la suite. Voilà, donc je vous recommande. Série efficace, très divertissante. Moi qui suis fan de vieux films, de cette époque des années 60, de l'apogée d'Hollywood, etc., de l'âge d'or d'Hollywood de l'époque. La musique est incroyable, ce décalage entre cette époque et ce qui se passe à l'écran fonctionne vraiment du feu de Dieu. Donc vraiment, je vous conseille ça. Moi, en tout cas, ça a très, très bien marché avec moi. Voilà. Autre série que je vous conseille, c'est Ripley. Ripley, série disponible sur Netflix et qui, pour ceux à qui ça va résonner un petit peu, ça va peut-être vous faire penser au film Le Talentueux Mr. Ripley. Et c'est exactement inspiré du même livre. C'est inspiré tout simplement du roman policier Monsieur Ripley de Patricia Highsmith qui est paru en 1955. Et donc du coup, on se retrouve dans les années 60, encore une fois, on quitte pas les années 60 pour l'instant. Et donc, on se retrouve dans le New York des années 60, du début des années 60, où on suit Tom Ripley, qui est un escroc petite semelle, qui est un peu aux abois, il est un peu en galère. Et il va en fait faire des petites arnaques, notamment de recouvrement et récupérer l'argent de recouvrement pour subvenir à ses besoins. Et en fait, il est approché par un détective privé qui va lui demander de faire une mission d'un riche armateur, Herbert Greenleaf, qui va lui demander finalement d'aller à la rencontre de son ancien ami, soi-disant, qui s'appelle Dickie Greenleaf, c'est ça, qui est lui, donc le fils de l'armateur, et qui est parti dans une espèce de voyage en Europe, à se la couler douce et à brûler l'argent que ses parents avaient mis de côté pour lui. Et donc, en fait, il a voilà une espèce de rente. Et en fait, au lieu de travailler finalement produire de la valeur et de l'argent, etc., dans cette espèce de monde capitaliste, il va vivre de sa rente et profiter de la Dolce Vita italienne, puisqu'il est, il est dans un coin de l'Italie, pas trop loin de Naples. Et va vivre la belle vie, voilà, très paisible, une vie très confortable, voilà. Et en fait, ce qui se passe, c'est que donc Ripley va se rendre sur place. On comprend très vite que en fait, il ne connaît pas ce Dickie Greenleaf, mais il va se faire passer pour un ancien ami et il va s'introduire dans ce cercle de connaissances de Dickie Greenleaf jusqu'à finalement se prendre d'envie de ce style de vie et essayer potentiellement de s'approprier ce style de vie d'une certaine manière. Voilà. Je ne vais pas en dire plus. Et pour boucler la boucle, dans le talentueux de Mr. Ripley, le film, qui joue Dickie Greenleaf, et ça, en effet, tu as tout à fait raison de le rappeler, Disco Benji, c'est Jude Law que l'on retrouve. Et c'était Matt Damon qui jouait Tom Ripley dans le film. Et Gwyneth Paltrow qui jouait la petite amie de Dickie Greenleaf. Là, en termes d'acteurs, franchement, le casting est vraiment très, très bon. On a Andrew Scott en Tom Ripley. Andrew Scott, vous le connaissez peut-être pour Fleabag. Moi, je le connais très certainement pour Fleabag, le Hot Priest, pour ceux qui connaissent la référence. Donc, excellent dans Fleabag, série excellente, humoristique, de Phoebe Waller-Bridge, que je ne peux que vous recommander, que j'adore, qui fait partie de mon top de série. Mais voilà, il joue, il est connu de cette série-là. On retrouve Johnny Flynn, très très bon acteur que j'aime beaucoup aussi, qui a joué dans pas mal de séries aussi, des comédies romantiques, dont je vous avais déjà parlé d'ailleurs. Mais je n'ai plus de nom en tête, et Dakota Fanning, que l'on connaît, actrice renommée aussi ici, que l'on retrouve, voilà. Donc vraiment un casting aux petits oignons. C'est une série en noir et blanc. Donc là, vous voyez l'affiche, mais en fait, toute la série est en noir et blanc. La cinématographie est incroyable, c'est époustouflant, c'est magnifique. Vraiment, chaque plan et chaque cadrage est travaillé et a un sens, apporte quelque chose dans la narration et dans l'histoire, dans la psychologie et les messages sous-jacents de la narration. Vraiment, c'est un petit bijou. Ça me fait rappeler un peu, et ça d'ailleurs, je vous encourage à écouter le dernier épisode de podcast de Season 1, où justement Fanny parle de Ripley. Et elle mentionne notamment que ça peut faire référence au film de Hitchcock. Et c'est vrai que moi, je n'avais pas fait le lien, mais tout à fait, sur le fait de ce travail de cadrage avec des détails au premier plan qui ont en fait apporté un sens vraiment à la narration et au motif sous-jacent de certains personnages, etc. Vraiment, c'est excellent. Je préviens quand même que le rythme est assez lent. La musique est très particulière aussi, et on sent en fait qu'il y a cette pression, montée de pression qui arrive avec une espèce de descente aux enfers qui va se dérouler au fur et à mesure de la série. Donc vraiment, c'était assez impressionnant. Ce qui est intéressant, c'est qu'un événement marquant, pour ceux qui connaissent l'histoire ou le film, un événement marquant arrive assez tôt finalement dans la série, je crois à l'épisode 3. Je ne l'ai pas terminé pour le coup cette série-là, j'en suis à l'épisode 4, je vais vous dire ça tout de suite. Ouais, c'est ça, j'en suis à l'épisode 4, donc il m'en reste encore 4, enfin 5 pour le coup, je n'ai même pas vu la moitié, mais voilà, c'est intéressant parce que cet événement va arriver très tôt dans la série, à la différence finalement du film. Donc à voir ce qui va se passer ensuite, mais je vous recommande. Donc très très belle série, une interprétation petit bijou, mais en effet le rythme est un peu lent, je préviens. Dernière série que je voulais vous partager, c'est Archie. Archie, vous voyez l'affiche. On reste dans les années 60. Je sais pas, il y a un fil rouge aujourd'hui des années 60 entre la musique de Fallout, l'époque de Ripley et finalement l'acteur Cary Grant. Et donc du coup, Archie, en fait, c'est une série de 2023, une série anglaise qui va raconter la vie de Cary Grant. Cary Grant, c'est un grand acteur des années 60 qui est né en fait anglais à Bristol, dans une famille très modeste, pour pas dire pauvre, qui était un peu, enfin, très ouvrière, très commune, hein, à Bristol dans les années 1904. Enfin, en 1904, il est né, juste avant qu'il devienne la star d'Hollywood, qui s'appelait Cary Grant. Voilà. Et donc, on suit à la fois on le suit à travers différentes époques, mais les trois époques phares, j'ai envie de vous dire, c'est à la fois son enfance à Bristol, son âge adulte plutôt quand il avait un peu 60 ans avec sa quatrième femme, je ne sais plus si c'était la troisième ou la quatrième femme, j'ai un doute. Bref, voilà, sa dernière femme, je crois. Non, c'était pas son avant-dernière femme, pardon. Voilà, et sa fin de vie, finalement. Voilà, donc où il est sur scène, il fait des spectacles sur scène où il raconte sa vie et il répond aux questions du public. Et c'est ce qui permet d'introduire finalement la série. On le voit un peu âgé sur scène en train de faire son spectacle, son one-man show, et répondant aux questions du public, et ce qui va être un déclencheur pour des flashbacks qui reviennent sur certaines époques de sa vie. Et donc, du coup, on va le suivre du coup, dans sa vie à Los Angeles avec ses galères personnelles, avec sa femme et sa carrière un peu déclinante ici. Et donc, Cary Grant est joué quand même par ni plus ni moins que Jason Isaacs, un acteur formidable. Il est bluffant, vous le voyez là sur, sur l'affiche. Franchement, alors, je vais quand même... chercher Cary Grant pour ceux qui se demandent à quoi il ressemble. Alors voilà, ça c'est vraiment le Cary Grant que moi je connais. Voilà, et là vous voyez Cary Grant. Et en fait, bon, alors là, la ressemblance n'est pas frappante, je suis d'accord, je n'ai pas pris la meilleure comparaison, mais franchement. Pour avoir regardé quand même pas mal de films avec Cary Grant, il y a des moments vraiment bluffants, que ce soit dans l'attitude, la manière de parler, etc. C'est vraiment assez, assez bluffant. Et donc, du coup, la série, c'est assez intéressant parce que, alors moi, j'étais persuadée d'abord que Cary Grant était américain, que c'était un acteur américain, enfin vraiment, voilà, et non le fait que c'était un acteur anglais, et avec une enfance assez, enfin, une histoire personnelle assez. Assez troublant, troublé, intéressante. Et on va le voir notamment interagir avec des Grace Kelly, des Audrey Hepburn. Enfin, bon, moi, c'est une époque cinématographique, enfin, voilà, assez, assez fascinante. Et avec un rapport aussi de l'homme et de la femme différente à l'époque. Donc ça, c'est aussi assez intéressant. Enfin, voilà. Si vous êtes intéressé par cette époque, je trouve que ça vaut la peine quand même de regarder. C'est pas une série incontournable dans le sens où elle n'est pas parfaite. C'est-à-dire que lui, cet acteur Jason Isaacs, est formidable dans son interprétation. Les autres acteurs ne sont pas forcément à la hauteur de son jeu. Si Grace Kelly n'avait pas mentionné Rainier, je ne suis pas sûre que j'aurais reconnu. Voilà, autant dire ça comme ça. Si on n'avait pas précisé que la jeune femme était Hepburn, j'aurais pas dit que c'était Audrey Hepburn. Voilà, mais bon, moi j'ai trouvé quand même ça très intéressant de finalement d'en apprendre plus sur cet acteur phare de l'époque qui fait partie de l'histoire du cinéma. Et j'ai trouvé ça assez, assez touchant, assez désarmant. Voilà, à savoir aussi que. La série a été quand même adaptée de la biographie de sa fameuse quatrième ou troisième femme, Diane Cannon. Et donc, du coup, elle est un peu à charge quand même. Elle est, elle est dans une certaine perspective, voilà, qui n'est pas forcément pour tout le temps flatter Cary Grant. Donc, voilà, à prendre sous cet angle-là. Mais moi, j'ai trouvé quand même la série intéressante et touchante. Voilà, donc à voir, si vous souhaitez un peu en savoir plus, ça vaut peut-être la peine, moi j'ai beaucoup aimé. C'est en plus une série avec uniquement 4 épisodes, donc c'est relativement court, hein. Ça passe très vite, et ça suffit, franchement ça suffit, 4 épisodes, c'était bien, voilà. Donc voilà un petit peu quelques séries. Une quatrième série que je n'ai pas mentionnée, mais que je peux vous partager, c'était la saison 2 de Tokyo Vice, qui est disponible là sur Canal+, je crois. Donc saison 2, très très chouette aussi, qui fonctionne super bien. Donc voilà, je vous recommande hein, pour ceux... Et si vous n'avez pas vu la saison 1, allez-y, franchement, ça vaut la peine. Très 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 chouette. Voilà. Je regarde un peu vos commentaires dans la chatroom, j'ai beaucoup parlé. Quelle est ta série des 10 dernières années, toutes plateformes confondues? Non, mais c'est impossible. C'est impossible de me demander ça, Baron Marutin. Alors, attends, je regarde mon app TV Show où j'ai mis mes séries préférées dedans. Mes séries préférées, je pense qu'il y a quand même Fleabag. Fleabag, c'est sûr. J'ai mis Flight of the Conchords aussi. Elle a peut-être plus de 10 ans, Flight of the Conchords. Ça fait mal de dire ça. Oui, elle a plus de 10 ans puisque c'était 2007-2009. Donc, c'est bon. Fleabag, non, elle rentre dans les 10 ans puisqu'elle date de... 2016-2019. Mais qu'est-ce que j'ai mis aussi? J'avais mis Pushing Daisies. C'est peut-être plus vieux, Pushing Daisies. Ça va, c'est 2007-2009, donc ça va, ça rentre pas dedans. Il y avait Halt and Catch Fire qui était assez folle, que j'avais adoré. Là, pour le coup, ouais, là, on est dans les 10 ans, 2014-2017. Mince. Alors, entre Fleabag et Halt and Catch Fire, on ne peut pas choisir l'une ou l'autre, c'est pas du tout le même registre. Ok? C'est pas du tout le même registre. De même que Normal People, c'est pas le même registre qui date de 2020. je ne peux pas choisir. Ce sont trois séries complètement sur un registre différent qui sont toutes formidables, ces trois-là. Fleabag, Halt and Catch Fire, Normal People. J'avais mis Légion aussi. Légion, mais parce que d'un point de vue artistique, c'était fou. C'était fou. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme série que j'ai pu voir? Je regarde. Bienvenue pour le raid de Un Monde de Jeux. On est en train de terminer l'émission sur mes séries préférées. Severance. Severance, ouais, mais elle est toujours en cours. Je la compte pas. Ça devient trop dur sinon. Non, je ne compte que les séries terminées. J'essaie d'éliminer comme ça, là. Voilà. Deux séries avec Lee Pace. Je ne pense pas qu'il y ait de coïncidence. J'adore cet acteur. D'ailleurs, je n'ai pas mis Fondation. Elle est toujours en cours. j'adore cet acteur. Je l'ai découvert avec Pushing Daisies. Et c'est justement pour lui que je suis allée voir Halt and Catch Fire, pas déçue du tout. Mindhunter, non. Non. Parce que, alors, mais biaisé ici, parce qu'en fait, le genre n'est pas un de mes genres favoris. The Good Wife, The Good Fight. Alors, je pense que j'ai même préféré The Good Fight à The Good Wife, pour être honnête. Parce que j'ai trouvé The Good Fight plus rentre dedans, plus acide dans sa critique. Et dans son humour aussi, je pense que j'ai préféré The Good Fight. Excellente série. Trop bien, t'as suivi la série Extraordinary sur Disney+, et t'as adoré. Ah, je suis trop contente. C'est une série que j'adore aussi, une série anglaise avec de l'humour anglais. What the fuck, mais vraiment, elle est géniale, super attachante. Enfin, vraiment, j'adore cette série aussi. Ted Lasso, ah non, mais là, c'est dur. Et puis en plus, elle est terminée, là. J'ai pas d'excuses. Mad Men, non. Je comprends, mais non. Je le mettrai pas en série préférée. Je le mettrai pas dans mon top absolu. Ça fait partie des séries que j'ai adorées, mais je ne le mettrai pas dans mon top. Je ne me poserai pas la question si ça a été ma série préférée. Voilà, je ne me pose pas cette question-là. Pour moi, non. Mais j'ai adoré cette série. Je ne sais pas si je suis très claire. Je regarde un peu hein, les dernières séries que j'ai regardées. C'est vrai qu'Extraordinaire, je l'adore, mais elle n'est pas terminée. Je la vire. Oh là là, j'ai regardé tellement de séries. Non. J'avais adoré la première saison de Loki, mais la seconde était mauvaise. Donc, du coup, elle n'est pas bonne sur le temps. J'essaie de faire ça vite. Ouais, hein, The Bear. Ah ouais, mais elle est en cours. Elle est en cours, donc non. je sais pas si je triche un peu là-dessus, mais bon, hein. Ted Lasso, c'est vrai que Ted Lasso y va. Hein, Elle est dans mon top quand même, hein. Clairement. Ça va, j'en ai pas trop quand même. Hein, Rogue Heroes, j'ai adoré, mais elle est encore en cours, hein, je crois. Hein. Donc, je la décale aussi. Ce coup de fight, j'avais beaucoup, beaucoup aimé. Beaucoup aimé. Better Call Saul, j'avais beaucoup, beaucoup aimé aussi. Pas facile, pas facile. Non, 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 tout ça. Hein. Non plus. Non plus, non plus. Bon, c'est pas mal quand même. Je vous en ai donné pas mal. Zoé Extraordinary Playlist, j'avais adoré la saison 1. En plus, ça a coïncidé avec un événement personnel assez important pour moi. Mais la saison 2 était un peu une redite pour moi. D'ailleurs, elle s'est arrêtée. Donc, pour moi, même en termes de qualité série, elle n'a pas réussi à maintenir le souffle. Donc, c'est pour ça que je ne la mets pas non plus dans mon top top. Non, mais je pense que c'est pas mal hein, déjà ce que je vous ai, ce que je vous ai partagé. Quand même. Normal people, ouais, franchement, carrément, quoi. Donc voilà. Westworld non plus. Parce que franchement, les dernières saisons étaient poussifs et j'ai détesté la fin. J'ai vraiment eu l'impression d'être prise pour une conne sur la dernière saison et j'ai eu l'impression d'avoir perdu mon temps de regarder cette saison. Et ça, non. C'est insupportable, donc non. Peaky Blinders. Ah ouais. J'ai trouvé quand même qu'il y avait des longueurs, mais très chouette série. Pareil pour moi, Peaky Blinders, je la mets un peu au même niveau que Mad Men. Très chouette. The Expanse, j'ai beaucoup, beaucoup aimé. La saison 1 n'était pas si bonne que ça. Ça s'est bonifié avec le temps. Mais du coup, voilà, à cause de ça, pareil. C'est dans mon top de série, mais pas dans mon top de série favorite. Voilà. Fringe, c'est trop vieux. Donc, pas considéré. The OA, non. Même si j'ai beaucoup aimé. Dark, non plus. J'ai beaucoup aimé, mais il y avait quelques cafouillages aussi. 13 Reasons Why, beaucoup aimé la saison 1. Je crois que pas que j'ai regardé les saisons suivantes. Person of Interest, j'ai pas regardé. For All Mankind, elle est encore en cours. Elle est encore en cours et en fait par son personnage principal qui m'agace. Non. Voilà. Là-dessus, il est 9h31, il faut absolument que j'y aille. Je vous souhaite une excellente journée, un grand merci. Je vous retrouve dans un mois, finalement, même un peu plus, je crois. Donc, je vous retrouve bientôt pour reprendre le mug. Mais en tout cas, à bientôt, un grand merci de m'avoir suivi. N'oubliez pas, le mug est là jeudi, vendredi avec Jérôme. N'oubliez pas et ne ratez pas les derniers mugs avant notre petite pause. Et moi, je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine. Et on va voir directement vers qui. On va faire un petit raid avant de se quitter quand même pour pas vous laisser en plan. Alors, qui est en cours? On va faire un petit tour du côté de allez, Final Fantasy, Xabab TV. On va aller de ce côté-là, tiens. Voilà, très bien. Très bien, très bien. Moi, je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine et à très bientôt. Et encore merci, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Bye bye!